VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. Les islamistes somaliens Shebab ont averti mercredi le Kenya qu'il ne sera jamais en sécurité. Ils ont proféré des menaces contre les touristes et lancé un appel à de nouvelles attaques contre les intérêts des États-Unis. Après une incursion dimanche contre une base américano-kenyane de la région de Lamu sur la côte de l'océan Indien. Dans un communiqué, les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, ont souligné que leur attaque contre le camp Simba près de Lamu dans l'est du Kenya, qui a tué 3 Américains et détruit plusieurs avions, constituait un avertissement. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, au Mali, 18 casques bleus et 2 civils maliens ont été blessés jeudi dans une attaque au mortier d'un camp militaire dans le nord-est du pays, région en proie aux violences et aux activités des djihadistes. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. 15 tirs de mortier se sont abattus dans et autour du camp de Tessalit, dans la région de Kidal, proche de la frontière algérienne. Le personnel du camp s'est abrité dans un bunker, selon un rapport de l'ONU. Le supercamp de Tessalit abrite un bataillon tchadien de la MINUSMA ainsi que des forces françaises de l'opération Barkhane et des militaires maliens. Les 2 civils ont été blessés dans la partie française du camp. Et puis, politique au Togo, 10 candidats se présenteront à l'élection présidentielle prévue le 22 février dans le pays. C'est ce qu'a annoncé la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ces postulants sont les personnalités qui ont pu déposer leur candidature à la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature le 8 janvier 2020 à minuit. La CENI procédera à l'examen préliminaire de l'ensemble des dossiers enregistrés qui seront transmis au ministère de l'administration territoriale pour la suite du processus, a déclaré le président de la commission, Chambaku Aliassor, lors d'un point de presse à Lomé, sans dévoiler les noms des candidats. La liste définitive des candidats retenus sera publiée par la Cour constitutionnelle au plus tard le 28 janvier. Au Tchad, la justice tchadienne a abandonné les poursuites contre un responsable d'ONG et un ancien premier ministre qui avait été arrêté dans le cadre d'enquêtes différentes. Les précisions de John Lindon.
L'ancien premier ministre et actuel secrétaire général de la présidence, Kalsebe Bahimi Debe, a été blanchi par la Cour suprême, selon son avocat Alain Kagombe. Mahamad Nour Ahmed Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, a lui bénéficié d'un non-lieu, selon Jacqueline Moudena, son avocate. Monsieur Bahimi Debe a été écroué le 3 décembre pour détournement des deniers publics, une procédure dénoncée par son avocat. L'ancien premier ministre à la tête du gouvernement de 2013 à 2016 avait été remis en liberté provisoire le 23 décembre. Le 6 décembre, M. Ibedou, militant des droits de l'homme, a été incarcéré de complicité de meurtre. Son arrestation a été condamnée par la Conférence internationale des barreaux, un collectif d'avocats de 40 pays francophones. Mais selon la presse tchadienne, son inculpation a été liée à la mort d'une adolescente de 14 ans. Nous avons estimé qu'il n'y a pas de charge retenue contre Ibedou et le juge d'instruction a suivi nos réquisitions, a indiqué Gérard Nédéou, premier substitut du procureur de la République en N'Djamena.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les exilés et réfugiés se verront retirer leur statut s'ils se livrent à des activités politiques. Les intéressés seront alors traités comme des personnes en situation illégale et dans certains cas, immédiatement expulsés. Telles sont quelques conséquences des nouvelles lois en vigueur depuis le 1er janvier en Afrique du Sud. Timothée Nonangmaya joint à Durban. Léon Katamboué, ressortissant de la RDC, membre de la coalition des Congolais pour la transition.
Ils viennent de sortir de l'apartheid et ils étaient en Angola, ils étaient au Mozambique, ils étaient au Zimbabwe, ils étaient en Zambie en tant que réfugiés et en train de faire des activités politiques. Ils doivent comprendre que l'Afrique est remplie de dictateurs. Et nous, en tant que réfugiés en dehors de nos pays, nous sommes la voix des sans-voix. Quand vous êtes dans un pays où il y a un dictateur, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche. Mais quand vous fuyez, vous êtes à l'extérieur, vous avez cette attitude-là de plaider pour ceux qui sont restés parce qu'ils sont dans le feu. Et toi qui es en dehors du feu, tu peux plaider leur cause. Et lorsque ce pays interdit les activités politiques, c'est inacceptable. D'ailleurs, nous avons déjà amorcé des actions pour voir les avocats des droits de l'homme pour qu'on puisse barrer la route à cette loi qui est déjà promulguée d'ailleurs.
Oui, selon vous, M. Katamboui, comment s'explique cette décision des autorités sud-africaines d'introduire ces lois?
Ah bon, je ne sais pas, je ne comprends pas parce que pour eux, ils ont généralement intérêt à défendre leurs amis qui sont comme président en Afrique. Je peux donner un exemple ancien. Ils étaient amis à l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Alors, lorsqu'ils ont vu les réfugiés zimbabwéens en Afrique du Sud en train de combattre le régime de Mugabe, ils n'étaient pas contents parce que pour eux, leur ami était Robert Mugabe. Donc, les gens que nous hébergeons ici doivent se calmer. Ils ne doivent pas faire le bruit pour combattre notre allié, notre ami qui est là-bas. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont les amis partout en Afrique. C'est pourquoi ils veulent maintenant mater les ressortissants de leurs amis qui sont dit, mais c'est qu'il était contre même les droits de l'homme.
Quel est l'impact de ces nouvelles lois sur vos activités politiques?
C'est terrible parce que vous êtes muselé, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a déjà les processus qui sont amorcés pour voir les avocats afin de combattre cette loi. Sinon, nous allons rester comme les gens dans les prisons. Et nous sommes la voix des sans-voix. Alors, les gens qui sont dans nos pays attendent de nous. Et si nous sommes maintenant comme en prison, automatiquement, ils ne seront pas sauvés.
Léon Katamboui de la coalition des Congolais pour la transition joint à Durban en Afrique du Sud. Crise migratoire, le bébé d'une migrante africaine est né et décédé à bord d'une embarcation de fortune pendant la traversée entre l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries. Et puis le cadavre d'un jeune garçon a été découvert à Paris dans le train d'atterrissage d'un avion parti d'Abidjan. Plus de détails avec Kiabadou.
Le nouveau-né se trouvait à bord d'un canot pneumatique chargé de 43 personnes qui a été localisé au large d'Arrecife, principale ville de l'île espagnole de Lanzarote. Les sauveteurs ont su qu'une femme avait accouché à l'intérieur de l'embarcation et une fois au port, le service d'urgence de l'archipel des Canaries a confirmé le décès du bébé. Trois personnes ont été hospitalisées, dont la mère du bébé décédé, une autre femme enceinte et un garçon de 12 ans. Selon les gardes-côtes espagnols, ces migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont 5 mineurs, avaient pris la mer depuis dimanche. Par ailleurs, dans un autre drame, le corps d'un jeune garçon a été retrouvé hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il s'était caché dans le train d'atterrissage d'un Boeing d'Air France reliant Abidjan à Paris. Un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé la mort d'un passager clandestin et a déploré un drame humain. Une source sécuritaire ivoirienne se demande comment un enfant d'une douzaine d'années a pu accéder à un avion. Une enquête est ouverte et permettra peut-être de répondre à toutes ces questions.
Bras de fer États-Unis-Iran maintenant, le président américain Donald Trump a joué hier la carte de l'apaisement après des tirs de missiles iraniens sur des bases américaines en Irak. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président Donald Trump a annoncé l'imposition immédiate de nouvelles sanctions contre l'Iran. Cependant, il n'a pas évoqué de réponse militaire, éloignant le spectre d'une escalade régionale, voire d'une guerre ouverte entre Washington et Téhéran. L'Iran, en représailles à l'élimination par Washington du général Qassem Soleimani à Bagdad, a tiré mardi nuit sur deux bases américaines en Irak. Au total, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur deux bases où sont stationnés des soldats américains. Aucun Américain n'a été blessé, c'est félicité d'entrer le président américain. L'Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour le monde, a lancé le chef de l'exécutif américain. Il a conclu par un message au peuple iranien et à ses dirigeants en disant que les États-Unis sont prêts à la paix avec tous ceux qui la veulent. Il a aussi exhorté les Européens à quitter l'accord sur le nucléaire iranien et s'est entretenu avec Boris Johnson, le premier ministre britannique.
Et pour terminer, le ministère chinois du commerce a confirmé jeudi que le vice-premier ministre Liu He se rendrait à Washington du 13 au 15 janvier pour signer l'accord préliminaire conçu comme une trêve dans la guerre commerciale sino-américaine. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.